Le lien créé par les insignifiances et les approximations n'est qu'apparent, et donc fragile. La tendance actuelle dans la société occidentale du XXIe siècle consiste à s'exprimer vite, sans nuance, sans approfondissement de la pensée, sans précision et sans engagement. Une manière fréquente d'éviter l'engagement consiste à utiliser la voix passive. Les choses se font plutôt que la voix active, je fais les choses. L'usage de la voix passive déresponsabilise, parce qu'elle n'impose pas de nommer le sujet. Les choses se font ne dit pas qui les fait, au contraire de je fais les choses, c'est moi, je dois donc assumer. Prenons quelques exemples. Maman, le vase est tombé. Au lieu de maman, j'ai fait tomber le vase. Où j'ai cassé le vase. Le vase n'est pas tombé tout seul. Une tournure d'esprit, et donc de phrase, excusable chez un enfant, mais qui devrait néanmoins être corrigée pour lui apprendre à assumer ses actes, ne l'est plus chez un adulte. Les choses semblent nous arriver en dehors de toute volonté personnelle. Ce n'est pas notre faute. Mon réveil n'a pas sonné. Oh, le vilain réveil. Je suis désolée, mais ma batterie était à plat. Quoi, votre téléphone ne se recharge pas tout seul? Et ainsi de suite. Écoutez, c'est édifiant. Les plans ont été modifiés. Tout seul? Par l'intervention du Saint-Esprit? On pourrait dire, les organisateurs ont choisi de modifier les plans, non? La décision est tombée. Paf! Comme une pomme qui se détache de sa branche. Ne serait-ce pas plus honnête d'affirmer « nous avons décidé » L'usage de la voix passive est de plus en plus fréquent et témoigne d'un désir général de ne pas assumer nos actes, reflet d'une société de plus en plus déresponsabilisante. L'utilisation de mots sacs est également un bon moyen pour noyer le poisson. Ces mots généraux qui contiennent on ne sait quoi. Aujourd'hui, tout va changer. Tout ? Quoi exactement ? Qu'est-ce qui va changer ? Nous n'en savons rien, mais l'effet d'annonce a porté. Avec toi, c'est différent. Différent comment? Sur quel point? En mieux, en moins bien, rien n'est dit, tout est flou. La conjoncture actuelle empêche l'initiative personnelle. Quel aspect de la conjoncture et en quoi une conjoncture a le pouvoir d'empêcher? Qui est derrière cette conjoncture? Aujourd'hui, les gens n'osent plus rien faire. Qui sont les gens? Quelle fraction de la population? Qu'est-ce qu'ils n'osent plus faire? Sur quoi se base cette personne pour affirmer cela? Avec quoi ou avec quelle époque compare-t-elle? L'imprécision est également notable par l'absence de cadre circonstanciel. On ne dit pas quand, comment, où, pourquoi, etc. L'absence de précision confère au propos une allure de généralité qui décourage la contestation. C'est comme si on disait en début de phrase « en général » et qu'ensuite on affirmait. Puisque les propos prennent une allure globalisante, nous ne pouvons ni les vérifier, ni les mettre en question. Le monde est violent. Quel monde? Quelle partie du monde? Depuis quand? De quel genre de violence parle-t-on? Est-ce une caractéristique de notre époque ou cela a-t-il toujours été le cas? La science ne peut pas tout résoudre. De quelle discipline scientifique parle-t-on? Qu'est-ce qu'elle ne peut pas résoudre? Qu'a-t-elle déjà résolu et où échoue-t-elle? Ces formulations sont fréquentes, à un point tel que nous ne nous en rendons plus compte. Les mots surfent au-dessus des concepts. Ils effleurent, entourent vaguement, évoquent, mais rien n'est précis. Il s'agit d'une forme de paresse intellectuelle qui forme des consensus mous mettant tout le monde d'accord. Les formules bloquantes. Introduire son propos avec une petite formule connue de tous empêche, une fois de plus, les nuances, la précision, la vérification, la responsabilité des propos et la possibilité de les contester. En voici un florilège. Je pars du principe que Il ne s'agit presque jamais d'un principe établi, mais ainsi énoncé, la formule anesthésie l'esprit critique. On ne touche pas au principe, n'est-ce pas? Comme tout le monde le sait, si je ne le sais pas, je suis automatiquement désigné comme ignorant. Autant me taire et laisser affirmer n'importe quoi. De toute façon, belle petite fermeture, pas d'alternative possible. C'est comme ça, un point c'est tout. Ces évolutions langagières ramollissantes risquent d'avoir pour effet, chez ceux d'entre nous qui persistent à privilégier les paroles précises et assumées, de décourager l'envie d'écouter. Écouter consiste à entrer dans l'univers de l'autre et à le découvrir, même et surtout s'il est différent d'une autre. Mais trop d'obstacles épuisent. Ce n'est pas juste. Lorsqu'une personne s'emporte et nous attaque d'une manière qui nous semble excessive ou injuste, nous nous sentons agressés. Il est assez insupportable d'écouter quelqu'un qui nous accuse indûment. Nous aimerions l'arrêter dès les premières phrases pour rétorquer que c'est exagéré ou faux, que les événements ne se sont pas passés de cette manière ou que nous nous sentons accusés de faits dont nous ne sommes pas coupables. Mais l'interrompre n'aura pour effet que de l'énerver un peu plus. Nous le pressentons. Pour celui qui encaisse, cela ressemble à de la mauvaise foi. Mais pour celui qui charge, les accusations à l'emporte-pièce constitue un moyen de défense élémentaire qui lui permet de projeter sur autrui les causes de son mal-être. Pour lui, la meilleure protection, c'est l'attaque. Pour éviter d'en prendre conscience, il déploie une certaine puissance et exprime les choses à l'état brut, sans nuance et parfois avec colère. La charge est forte et balaye toute envie de riposte. C'est le but. Écouter quelqu'un qui réécrit l'histoire, comme on dit, n'est pas plus agréable. Réécrire l'histoire consiste à changer de ci, de là, quelques détails significatifs qui donnent au récit une toute autre coloration. On minimise sa part, on exagère les torts de l'autre, on inverse une chronologie qui ne nous est pas favorable et grâce à ces quelques tours de passe-passe, l'affaire est dans le sac. Cela crée une déclaration tendancieuse. Rien n'est massivement faux, mais tout est un peu tordu. Restaurer la vérité point par point n'en vaut pas vraiment la peine et interromprait souvent le discours. Toutefois, lorsque l'histoire est dite, elle ne correspond plus du tout à notre propre version des faits. Cette discordance, qui est normale dans la mesure où personne ne vit les événements de manière identique, devient ici très orientée. La personne qui s'exprime donne l'impression qu'elle sait vaguement que ses propos sont abusifs, mais qu'elle espère que nous ne nous en rendrons pas compte. La forme obscurcit le fond. Certaines personnes paraissent incapables de s'expliquer par les mots. Elles ne s'expriment qu'en actes. Il semble qu'elles n'ont jamais appris à mettre leurs pensées en paroles, ni à traduire verbalement leurs émotions, leurs désirs, ou leur mécontentement. Ce sont plutôt des gens un peu bourrus et peu à l'aise dans les relations sociales. Lorsque le message est gentil, l'acte l'est aussi, et cette facette de leur personnalité les rend plutôt attachants. Mais lorsqu'ils ont besoin d'exprimer quelque chose de difficile, leur expression peut devenir assez agressive. Voyez par exemple ce monsieur qui, en ayant assez de découvrir les crottes du chien de ses voisins sur sa pelouse, a tendu un fil électrique à l'entrée de sa propriété plutôt que d'exposer le problème au maître dès la première incartade de Médor sur son terrain. Pourtant, lorsqu'ils se croisent dans la rue, il a toutes les apparences de la cordialité. Hypocrisie? Éducation? Mal-être? Ce monsieur a essayé de s'exprimer avec ses moyens limités et il était nécessaire qu'il le fasse. Si les voisins parviennent à lire entre les lignes l'incivilité subie et à décoder le mal-être qui se cache derrière ce mode d'expression fort maladroit, les choses peuvent s'apaiser, ce qui fut le cas. Mais si en revanche, les interlocuteurs n'avaient pas été plus doués, ils auraient pu y répondre œil pour œil, dent pour dent, et le quartier se serait transformé en Fort Chabrol. Ces moyens d'expression frustrent, s'ils sont suivis de réponses qui le sont tout autant, sont à l'origine de bon nombre de conflits de voisinage. Sur le fond, l'histoire est assez anodine, mais la forme lui a donné une allure légèrement guerrière. Par incapacité à mettre sa demande en mots, le voisin a créé une petite situation de crise qui aurait pu facilement être évitée. Cela arrive souvent, lorsque la goutte fait déborder le vase. La personne ressent une exaspération dont elle n'arrive pas à parler, qui se reproduit plusieurs fois, jusqu'au jour où elle surréagit à la grande surprise des interlocuteurs. Comme cet autre homme, exaspéré d'être réveillé par les jeunes qui rient sous sa fenêtre et qui s'adressent à eux avec colère, alors qu'ils ne se rendent compte de rien. Son énervement est légitime, mais sa réaction surprenante est disproportionnée et les jeunes, choqués, n'ont aucune envie d'en tenir compte. Coller des timbres. Chaque incident est un timbre symbolique que l'on colle sur une feuille sans en parler à celui qui crée le désagrément, et lorsque la feuille imaginaire est pleine, on la lui envoie à la figure. Mais ce n'est pas correct. Si l'autre locuteur n'a pas les moyens de savoir que nous accumulons des timbres, nous ne pouvons pas lui en faire payer la note. Pour éviter cet excès, nous avons le choix. Soit nous le prévenons de chaque timbre collé. « Attention, lorsque tu agis de telle manière, je me sens irrité et je n'aime pas ça. » Soit nous n'en parlons pas, mais dans ce cas, nous devons jeter le timbre à la poubelle. C'est un détail ? Cela ne vaut pas la peine d'en faire un fromage ? Alors nous nous en débarrassons. À moins que nous n'aimions créer des problèmes et ensuite nous en plaindre. Cela aussi, c'est un choix. Ce n'est pas facile, me direz-vous, et vous avez raison. Mais si l'impulsivité sans analyse soulage au moment même, elle crée d'autres difficultés qui émergeront ultérieurement. Un incompréhensible malaise. Écouter quelqu'un qui nous manipule génère un réel mal-être. La confusion que nous ressentons nous brouille l'esprit et nous empêche, dans un premier temps, de comprendre ce qui se trame. Nous sortons de l'entrevue déconcertés, exaspérés ou en colère. Nous nous sentons amoindris, humiliés ou idiots. Nous nous demandons pourquoi nous n'avons pas riposté, pourquoi nous avons dit « oui » alors que nous pensions « non », pourquoi nous nous sommes laissés faire. Nous n'avons pas réussi à voir clair, nous avons perdu nos moyens. Nous ne sommes pas parvenus à redresser la barre. Le dialogue s'est envenimé au point parfois de nous amener à utiliser des phrases excessives qu'ensuite nous pouvons regretter. La manipulation éveille nos fonctionnements les plus sombres. Afin de ne pas nous laisser écraser, nous nous sentons poussés à mobiliser nos ressources les plus tordues. Sous-entendus, mépris, attaques, exagérations et torsions de la réalité. Nous tâchons de riposter avec les moyens qui nous semblent nécessaires pour répondre aux attaques sournoises. Parfois, nous ne répondons pas, nous nous laissons manipuler parce que nous ne comprenons pas ce qui se passe, et ensuite, nous nous en voulons. Les personnes qui nous manipulent hantent nos pensées. Il est difficile de tourner la page et de poursuivre son chemin, l'esprit guilleret. Nous gardons de ces rencontres un sentiment confus de frustration et d'injustice. Nous avons envie de nous expliquer, de revenir sur le sujet et de mieux nous y prendre cette fois. Mais plus nous tentons d'exprimer notre point de vue, plus nous sentons que nous envenimons le dialogue et nous perdons pied. Continuer à écouter dans ce contexte devient une réelle souffrance. La faire perdurer serait friser le masochisme. Pour nous préserver, nous sentons qu'il vaut mieux nous éloigner ou carrément rompre la relation. Qu'est-ce que la manipulation ? La manipulation est avant tout une dynamique relationnelle. Elle se met en place entre deux individus liés par une relation qui ne peut se dénouer facilement et qui vivent un contentieux, une opposition ou un rapport de force. La manipulation n'est ni une tare ni une maladie. Ce ne sont que des moyens, hautement désagréable, parfaitement irrespectueux et subtilement malhonnête, qui ont pour effet de faire perdre pied à l'autre afin de maintenir sa propre tête hors de l'eau pour prendre un certain pouvoir sur l'autre, ou simplement pour obtenir ce qu'on ose ou n'arrive pas à obtenir autrement. Ces comportements témoignent de l'incapacité du sujet à considérer l'autre comme un protagoniste à respecter, qui a une pensée propre, une vision du monde bien à lui, des goûts personnels, un rythme propre, des priorités différentes, et avec lequel une conversation sincère et respectueuse est possible. Le sujet impose sa vision du monde à l'autre, et pour y arriver, il le dénigre, le critique, le ridiculise, caricature ses propos, élude les questions, évite le dialogue franc, accuse et culpabilise. La manipulation peut être très asymétrique, mettant en scène une personne qui subit et en souffre et qui est véritablement victime de l'autre, mais cette relation peut se manifester de manière bien plus symétrique, dans un affrontement manipulatoire tout à fait réciproque, et le plus manipulateur des deux n'est pas toujours celui qu'on pense. Nous avons tous accès aux comportements manipulatoires. Cela ne fait pas de tout le monde des manipulateurs, heureusement. Ce sont toujours des moyens peu francs et relativement désagréables. Mais chaque comportement pris séparément n'est pas dramatique. C'est la répétition, la quantité et la constance qui sont à la longue traumatisantes. On parle de personnalité manipulatrice pour quelqu'un qui n'utilise que ce genre de comportement. Il obéit à deux impératifs, ne jamais dépendre d'autrui et ne jamais se sentir inférieur. Il lui importe donc d'éteindre progressivement le pouvoir de son partenaire en le déstabilisant, en le critiquant, en lui mettant des bâtons dans les roues, comportement de violence larvée et sournoise, déguisée, discrète et tellement peu claire que bien souvent, il ne le reconnaît pas lui-même. Il s'inscrit dans une relation dominant-dominé, qui ne prend en compte que ses intérêts propres, plutôt que dans une relation de négociation qui tiendrait compte des personnalités de chacun. Mais ce qui est particulier, et qui rend ce diagnostic difficile, c'est que cette stratégie de domination n'est pas toujours flagrante, ni constante. On peut croiser la route d'individus qui sont dans un premier temps assez charmants, mais qui plus tard se révéleront bloquants, insistants, belliqueux, méfiants, brutaux, froids ou suspicieux. Cette phase d'emprise non plus n'est pas toujours consciente. Elle est nécessaire aux manipulateurs pour se faire aimer, pour assurer ou restaurer le lien, mais elle ne révèle pas nécessairement d'un plan mûrement conçu et réfléchi. Ils assurent leur survie, cela leur paraît normal et ce besoin réapparaît donc régulièrement entre les crises, par des périodes d'accalmie qui prennent parfois des allures de raccommodage. Ce qui explique en partie pourquoi les victimes restent parfois si longtemps sous leur emprise. D'autres types de personnalités encore vous paraissent probablement pénibles à écouter. Chacun a sur ce point sa propre sensibilité. Mais nous ne pouvons nous contenter d'imputer aux autres nos difficultés d'écoute. Nous en portons aussi une part de responsabilité. Pourquoi n'écoutons-nous pas bien? Il est assez rare que nous ayons appris à bien écouter. Cela ne coule pas de source. Souvent, nous n'avons pas été bien écoutés nous-mêmes. Nous avons grandi dans une famille où personne ne s'écoutait réellement. On se parlait pour se dire le nécessaire sur le plan du fonctionnement familial. Passe-moi le sel, tu as fait tes devoirs, et à quelle heure tu rentres? Sans plus. Or, vraiment bien écouter est difficile. Pas étonnant donc que nous n'y parvenions pas. D'autant que nous ne sommes probablement pas entourés de bons modèles aujourd'hui encore et qu'en conséquence, nous ne nous en rendons pas compte. Faisons un tour d'horizon de nos dérapages potentiels. La bouillonnante envie d'intervenir. C'est certainement la première raison pour laquelle nous avons du mal à écouter véritablement. Notre envie d'être utile, notre besoin de participer, d'exprimer nos idées, nos suggestions, etc. Nous voulons réagir à ce que nous raconte notre interlocuteur, lui montrer que nous sommes sensibles à ce qu'il vit, mais ce faisant, nous ne l'écoutons pas, ou trop peu. Nous lui coupons la parole, l'empêchant de poursuivre à son rythme. Ou, à peine mieux, nous monopolisons la conversation dès qu'il a posé un point au bout de sa phrase. Certes, il a fini cette phrase-là, mais il est loin d'avoir eu le temps d'exposer ce qu'il avait sur le cœur. Cette impatience à parler n'est pas compatible avec une bonne écoute, parce que notre esprit n'est pas serein ni disponible au cheminement de l'autre. La meilleure attitude pour bien écouter, c'est de se taire. Ne pas interrompre semble déjà, pour nombre d'entre nous, dur à respecter. Et même lorsque nous restons silencieux, nous ne le sommes pas nécessairement dans nos pensées. Au lieu de nous couler dans le récit de notre interlocuteur pour en découvrir la logique et les nuances, comme une barque suit le fil de l'eau, nous réfléchissons, nous préparons des réponses ou nous prévoyons des solutions. Nous pensons parallèlement à son récit. Nous ne sommes donc pas tout à fait attentifs à ce qu'il vit, dans un esprit d'ouverture à sa singularité. Ce qu'il dit ou ce qu'il vit. La différence semble subtile, mais elle est d'importance. Bien souvent, nous nous centrons sur ce que la personne dit et non sur ce qu'elle vit. Une seule lettre, mais elle change tout. Cette distinction repose sur une compréhension essentielle des fonctionnements humains. Ce ne sont pas les événements qui nous affectent en tant que tels, mais la manière dont nous les vivons. Rappelez-vous l'histoire de la noix de coco. C'est pareil pour tous les événements de la vie. Par exemple, le divorce de leurs parents n'est pas vécu pareillement par leurs enfants selon la manière dont cela s'est passé, de ce qu'on leur en a dit, les disputes dont ils ont été témoins, le moral du père ou de la mère, la charge qu'ils mettent sur les épaules de leurs enfants, etc. Un licenciement collectif est une catastrophe pour l'un et une opportunité pour l'autre, selon l'âge, le caractère, le statut familial, les circonstances de la vie et la capacité de chacun de rebondir. Certaines personnes font un problème de tout. D'autres traversent les événements difficiles avec courage et bonne volonté. Tout est une question d'état d'esprit. Et chacun fait ce qu'il peut avec ses moyens du moment. C'est une évidence. Mais cela implique quelque chose de bien moins évident. Que nous portions notre attention sur ce que vit notre interlocuteur, au-delà de ce qu'il dit. Un exemple. À la sortie de l'école, un parent attend son petit garçon qui arrive en pleurant. « Maman, papa, Noah a pris mon camion !» Que répondraient des parents qui n'écoutent pas vraiment le vécu particulier de l'enfant, mais seulement ce qu'il dit? Le parent éducateur. « Eh bien voilà, comme ça tu apprendras à faire plus attention à tes jouets. » Le parent culpabilisant. « Je t'avais bien dit de ne pas apporter ton camion à l'école. » Le parent sauveur. « Viens, on va aller le chercher. » Le parent réparateur. « Oh, mon chéri, viens, je vais te donner une bonne glace pour te consoler. » Le parent minimisant. « Ce n'est pas grave, tu en as encore tant à la maison. » Malgré de bonnes intentions, ses parents ne s'intéressent pas à la façon dont l'incident a été vécu. Aucun ne s'arrête un moment dans sa course pour lui dire « Raconte !» pour essayer de comprendre comment leur enfant ressent la perte de son camion aujourd'hui en fonction de son moral et des circonstances qui ont entouré l'événement. Tel enfant dira en pleurant « C'était mon camion préféré, celui que bon papa m'avait donné. » Ce camion-là est important, il doit être récupéré. Mais à travers la disparition du jouet, l'enfant ressent la souffrance d'avoir perdu son grand-père, ce qui invite le parent à écouter cette tristesse particulière et à aider son enfant à progresser quelque peu dans son deuil. Un autre enfant hoquettera « Les autres, ils sont tous plus forts que moi. » Celui-ci se sent faible face à ses copains. Il n'a pas confiance en lui et n'arrive pas à se défendre. En allant récupérer le camion à sa place, nous le confirmerions précisément dans son sentiment d'infériorité. Alors qu'en lui laissant la parole, nous pourrions envisager avec lui comment il peut récupérer son camion par ses propres moyens, ce qui renforcerait son estime personnelle. Autre exemple encore. Imaginons que nous rencontrions un ami qui nous dit « Samedi dernier, je me suis fait cambrioler ». Si nous nous laissons aller à la curiosité, nous risquons de poser des questions sur les circonstances. Chez toi ? Et qu'est-ce qu'ils ont volé ? Et par où sont-ils entrés ? Vous étiez parti ? Bien sûr, avec ces questions, nous manifestons quand même un intérêt pour ce que cet ami a vécu, mais nous orientons nos questions vers ce qui nous intéresse et non vers ce qu'il a besoin de raconter. Nous pourrions l'inviter à parler librement, avec des questions plus ouvertes. Raconte. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment tu te sens ? Nous nous rendrions compte alors que l'un se sent violé dans son intimité, l'autre est terrorisé et n'ose plus dormir seul, alors que le troisième s'en fiche éperdument parce qu'il est bien assuré et que c'est l'occasion de changer de télé. Un même événement et trois ressentis particuliers, donc trois façons différentes d'aider et de réconforter. La chasse aux détails et la poursuite de la vérité. Si nous écoutons le récit plutôt que le vécu, nos réactions peuvent empêcher notre interlocuteur d'exprimer la manière dont il vit les événements en nous focalisant sur les petites inexactitudes dans sa version, les détails qui ne correspondent pas à notre souvenir. J'aurais bien voulu qu'on en parle et qu'on résolve ce problème, mais dimanche soir, quand j'ai essayé de t'en parler, tu étais occupé sur l'ordi. Mais non, dimanche soir, c'est moi qui ai fait le repas, j'étais à la cuisine. Oui, mais après le dîner, tu n'étais plus disponible. Mais ce n'est pas vrai, c'est toi qui es monté mettre les enfants au lit. Etc., etc. La première personne fait part de son besoin de résoudre un problème et de son regret de ne pas trouver un moment de disponibilité commune, mais son partenaire s'arrête sur les détails qu'il juge inexacts, ce qui empêche d'aborder l'objet prioritaire du message. Les petites inexactitudes d'un récit sont souvent sans conséquences sur la suite. Ces détails anodins importent peu finalement. Si nous choisissons de ne rien laisser passer, nous optons délibérément pour un fonctionnement crispant qui déroute et brise la fluidité de l'expression. C'est une forme de sabotage dont nous devrions être conscients. Si un détail s'avère ensuite avoir une quelconque importance, nous aurons tout loisir de le redresser au moment opportun. Inutile de tirer sur tout ce qui bouge au premier mot prononcé. Interprétation, supposition, projection. Je me suis soignée durant des années par homéopathie. Je commence à avoir des doutes sur cette médecine. Je ne sais toujours pas comment ça marche et je me demande si ce n'est pas que du placebo. Alors finalement, pour toi, les homéopathes sont des arnaqueurs. Mais non, je n'ai jamais dit ça et je ne le pense pas. Mais si tu dis que c'est du placebo, ça veut dire que c'est de l'arnaque. Mais je n'ai jamais parlé d'arnaque. Excuse-moi, mais c'est exactement ce que tu sous-entends. Ce dialogue résumé montre que la seconde personne extrapole. Elle semble choquée par les propos qu'elle vient d'entendre, qui mettent probablement en question ses propres convictions. Elle les interprète à sa manière et en tire une conclusion quelque peu provocante qui empêche la poursuite du récit. Elle n'écoute pas ce que la première tente de dire et qui aurait pu faire l'objet d'une conversation intéressante. Ses doutes sur cette forme de soin à laquelle elle avait accordé foi durant des années. Une fois l'énervement calmé, l'interlocuteur froissé s'en est expliqué. Pour lui, placebo signifie arnaque. Ce lien, qui lui est pourtant bien personnel, lui paraît évident et il suppose donc que les autres personnes le font aussi. Il ne vérifie pas son extrapolation, conclut directement et réagit avec humeur. Il riposte, il n'écoute pas. Nous faisons bien souvent des suppositions. Il est difficile de ne pas en faire. Nous ne pouvons vérifier le sens que notre interlocuteur donne à chaque mot. Nous devons faire des interprétations globales, mais il est essentiel de comprendre que c'est bien cela que nous faisons. Cela nous permet de rester vigilants et de vérifier de temps à autre si nous sommes bien sur la même longueur d'onde. Nous filtrons, nous sélectionnons, nous traduisons, nous interprétons. C'est ainsi, et il faut en avoir conscience. Et corriger le tir régulièrement. L'empathie, c'est quoi exactement ? On pense parfois que l'empathie consiste à se mettre à la place de l'autre, pour mieux ressentir ce qu'il exprime. Or, ce procédé mental est un peu trompeur, parce que nous ne pouvons pas nous mettre à la place de l'autre. Nous n'avons évidemment pas les mêmes perceptions, ni la même sensibilité. En imaginant ce que nous ressentirions à sa place, nous n'imaginons que ce que nous ressentirions à sa place, et non ce que cette personne-là, unique et différente de nous, ressent. L'empathie consiste avant tout à se couler dans le récit de l'autre, se laisser porter au plus près de ce qui est exprimé, sans penser à soi. Il s'agit bien davantage d'une attitude d'observation fine, sensible et attentive, plutôt que d'une projection fictive de soi dans l'univers de l'autre. Néanmoins, en restant nous-mêmes et sans partir dans cet imaginaire projectif, nous pouvons quand même ressentir une sorte de contagion émotionnelle. Nous la connaissons bien lorsqu'elle s'exprime sous forme de fou rire. Le rire incoercible d'un tel déteint sur nous, alors que nous ne connaissons pas toujours les raisons de son hilarité. Il n'est donc pas nécessaire de comprendre, et encore moins de se mettre à sa place, pour ressentir l'émotion joyeuse de celui que nous écoutons. C'est pareil pour la colère ou la tristesse, et toute autre forme d'émotion. En restant nous-mêmes, sans essayer d'imaginer ce que nous ressentirions dans les mêmes circonstances, nous percevons l'émotion de l'autre. Elle nous touche et réveille la nôtre, comme une corde de guitare qui vibre d'elle-même, en harmonie, lorsqu'on pince celle d'à côté. Nous avons fait le tour de quelques obstacles fréquents à l'écoute, émanant autant de celui que nous écoutons que de nous-mêmes. Conclusion. Peut mieux faire ? Explorons ensemble comment nous y prendre pour bien écouter. Vade-mecum d'une écoute attentive et respectueuse. Quand vous êtes-vous senti vraiment bien écouté ? Cette question, qui entamait les séminaires que j'ai donnés durant quelques années sur le sujet, amenait généralement deux types de réponses. Les premiers intervenants répondaient « jamais ». Les seconds, malheureusement moins nombreux, décrivaient quelques moments de bonne écoute. Triste constat. Ce qu'ils exprimaient était somme toute assez simple. « Je me suis senti vraiment bien écouté lorsque j'ai pu parler jusqu'au bout, sans être interrompu, et que la personne qui m'écoutait ne m'a pas immédiatement donné son avis ou des conseils. Elle a juste cherché à comprendre ce qui m'arrivait, sans pression. » L'écoute respectueuse est non directive, attentive, et son rôle essentiel est de permettre à la personne de s'exprimer aussi librement qu'elle le veut, sans qu'elle se sente jugée ou dirigée. Un peu comme si nous écoutions un martien. Si nous devions accompagner un martien dans sa difficulté à communiquer, nous serions quelque peu démunis et ferions probablement de beaux efforts pour nous adapter à son étrangeté. De quoi souffre un martien ? Comment exprime-t-il ce qu'il ressent ? Est-ce qu'il pleure quand il est triste ? Comment a-t-il besoin d'être écouté ? Comment le réconforter ? Autant de questions que nous pourrions nous poser pour tous ceux que nous choisissons d'écouter, parce que, bien qu'humains, nous sommes tous un peu des martiens les uns pour les autres. Comme je l'ai expliqué plus haut, même si nous traversons les mêmes événements, nous ne les vivons pas de manière identique. Chacun a sa sensibilité personnelle, et l'écoute attentive doit en tenir compte. Ici et maintenant. Pour rester bien centré, on préconise que l'écoute se vive ici et maintenant. Qu'est-ce que cela implique ? Ici signifie de ne pas nous évader hors de la rencontre présente. La personne à laquelle nous accordons notre attention est toujours celle que nous avons en face de nous, et non celle dont nous parlons. Par exemple, si nous rendons visite à un malade, aussi longtemps que nous sommes dans sa chambre, il est l'objet central de notre écoute. Mais lorsque nous nous retrouvons dans le corridor avec son épouse, c'est elle qui devient la personne à laquelle nous nous intéressons. Elle souffre d'accompagner son mari qui décline de plus en plus. Elle a peut-être peur de le perdre. Elle a aussi besoin d'être écoutée. Même, et c'est là que nous avons tendance à déraper, si elle ne parle que de la souffrance de son mari. nous pourrions avoir tendance à nous mettre également à parler de lui, une manière de nous détourner de cette femme qui, à l'évidence, souffre également. Dernièrement, j'ai pris un moment pour écouter un enfant qui pleurait tout seul dans son coin, un soir de fête. Je ne le connaissais pas, mais sa tristesse m'a touchée. C'était un petit garçon métis, de 6 ou 7 ans, au joli visage bronzé et aux yeux en amande. Je lui ai demandé ce qui se passait, et après m'avoir raconté que ses petits copains ne voulaient pas jouer avec lui, il me dit qu'il l'avait traité de « face plate ». Si je n'avais pas un peu de technique d'écoute, et la certitude qu'il faut avant tout entendre ce que vit la personne ici et maintenant, j'aurais probablement répondu, comme je l'observe souvent et que je le faisais jadis, « Mais ne t'en fais pas, ils n'ont certainement pas voulu te faire de la peine. Il ne faut pas mal le prendre, tu sais, les enfants ne pensent pas toujours ce qu'ils disent, ils ne se rendent pas compte, etc. » C'est-à-dire se faire l'avocat des absents, dans le but, rarement atteint, de diminuer la portée de ce qu'ils ont dit, pour amoindrir en conséquence la douleur du petit garçon. Si j'avais dit cela, j'aurais pris la défense des agresseurs de l'enfant, et il se serait probablement senti incompris, seul, ou même ridicule d'avoir accordé de l'importance à ce que je tâchais de minimiser. J'ai choisi de l'accompagner dans son vécu. « Oh, mais c'est dur, ça. Je comprends que tu n'aimes pas ça. » Je l'ai immédiatement senti soulagé, et il a continué. Ils sont plus grands que moi, je n'ose pas répondre, mais j'ai envie de leur casser la gueule. Et moi? Je comprends que tu aies envie de ça, c'est une envie très normale. Tu as envie de te défendre, de leur montrer que ça t'a fait mal. Mais comme tu sais, on ne peut pas casser la gueule aux gens. Oui, je sais, c'est dommage, parce que ça m'aurait fait du bien. Poing, et il tombe par terre. Ah, ce serait bon! Je comprends, ça te fait du bien de penser à ça. Tu aimerais riposter, tu peux y penser. Malheureusement, tu ne peux pas le faire. Mais est-ce que tu peux te défendre autrement? Et le dialogue a évolué petit à petit vers l'idée de reprendre sa place dans le groupe en faisant un peu le clown, ce qui semblait lui convenir. Cela lui a permis de surmonter sa frustration et d'attirer l'attention en faisant rire, avec succès. Rester centré sur « maintenant » permet à la personne que nous écoutons d'exprimer comment elle porte aujourd'hui la charge de ses souffrances, même si les événements se sont passés hier. Et aujourd'hui, comment tu te sens? Observons comment un dialogue qui reste ici et maintenant diffère de celui qui s'en échappe. Commençons par le second. Je suis préoccupée par l'avenir de mon fils. Mais ne t'en fais pas, il va s'en sortir. Oui, mais pour le moment, il file un mauvais coton et je m'inquiète. On est tous passés par là, c'est le propre de la jeunesse. Sauf que je crois qu'il fait quelques bêtises. Et toi, tu n'en as jamais fait à son âge? L'époque était différente, et il ne me raconte pas tout. Je me demande s'il ne me cache pas des choses. C'est normal, il a besoin d'avoir un jardin secret. Et ainsi de suite. L'ami écoute la mère du garçon avec gentillesse et essaye de l'aider à ne pas s'en faire. Il tâche de la réconforter en minimisant ce qu'elle vit. Mais l'écoute-t-il réellement? Non, pas vraiment. Or, le dialogue semble sympathique et bien intentionné. Le copain alterne des réponses qui concernent le fils, donc pas ici, ne t'en fais pas, il va s'en sortir, il a besoin de son jardin secret, avec des généralités, on est tous passés par là, et des retours vers la mère, mais pas maintenant. Il évoque le passé. Tu n'en as jamais fait à son âge? En fait, voulant bien faire, il balade son ami à droite et à gauche pour la distraire et l'empêcher de se tourmenter, et ce faisant, il n'écoute pas ce qu'elle vit et ne lui permet pas de l'exprimer. En restant centré sur « ici et maintenant », voici ce que cela pourrait donner. Je suis préoccupée par l'avenir de mon fils. Ah oui? Qu'est-ce qui te préoccupe? Je trouve qu'il file un mauvais coton. Qu'est-ce que tu veux dire? Il a l'air déprimé, mais je ne sais pas ce qui se passe et ne me raconte pas tout. Tu es inquiète? Oui. Qu'est-ce qui t'inquiète? J'ai peur, je crois qu'il fume des pétards. Je sais qu'il fumait de temps en temps des cigarettes, mais si c'est régulier, j'ai peur qu'il n'étudie plus et arrête ses études. Tu as peur qu'il décroche? Oui, peut-être que c'est déjà trop tard. Et je n'ose pas en parler à son père. Pourquoi? J'ai trop peur de sa colère. Il aggrave toujours tout. Tu te sens un peu seule? Oui, je crois que j'ai besoin d'aide. Il faut que je retrouve le lien avec lui, mais je ne sais pas comment m'y prendre. Qu'est-ce qui t'aiderait? Je crois que je vais aller prendre conseil dans un centre de consultation. Oui, là, je trouverai des gens compétents dans ce type de problème. Cette fois, on voit que l'ami reste bien centré sur la mère. Il essaye de voir ce qui est difficile pour elle, sans jugement. Son écoute aide son ami à approfondir ce qui la tourmente, et elle exprime naturellement que l'aide d'un spécialiste lui serait nécessaire. Une autre manière de concevoir une écoute bien centrée sur le présent consiste à imaginer que c'est la première fois que nous écoutons une personne, mais aussi la dernière. Première fois signifie que nous ne nous référons pas à ce qu'elle a pu dire précédemment. Avec le temps, ses idées ont peut-être évolué. Il est inutile d'y revenir, et encore moins de la contredire en lui rappelant que sa version précédente était différente. Ce n'est pas un interrogatoire de police. Nous nous dégageons de ce que nous savons d'elle, nous l'écoutons avec un esprit vierge. Si elle ne fait pas de lien avec des confidences antérieures, nous ne le faisons pas non plus. Dernière fois, indique que nous allons entendre tout ce qu'elle a besoin de dire aujourd'hui en ne laissant rien sur le bord de la route. Nous ne savons pas comment ses idées vont évoluer et demain est un autre jour. L'image du danseur et de la danseuse est assez représentative d'une écoute qui accompagne bien. La danseuse suit exactement les pas du danseur, dans la valse traditionnelle par exemple. Elle ne cherche pas à influer sur le rythme ou les pas de son cavalier. Lorsque nous écoutons vraiment bien, c'est ce que nous faisons. Nous nous laissons porter par le récit et les émotions de notre partenaire, nous l'accompagnons agréablement dans la mise au clair de ce qu'il choisit de révéler. Ni plus ni moins. Pour bien écouter. En voiture, Simone. Plutôt que de décrire une méthode d'écoute respectueuse, laissons-nous porter une fois encore par une image. Écouter une personne en difficulté, c'est un peu comme si, pendant le temps de la rencontre, nous nous asseyions sur le siège du passager d'une petite voiture conduite par la personne qui veut s'exprimer. Il s'agit de sa voiture de vie, qu'elle reçoit à la naissance, avec laquelle elle parcourt les hauts et les bas de l'existence et qu'elle quittera au moment de sa mort comme tout un chacun. Notons déjà qu'elle roule sans nous depuis des années, comme elle le veut ou comme elle le peut, que nous ne sommes pas les seuls à nous asseoir sur ce siège et que son chemin continuera encore après notre passage. Ceci est une invitation à une certaine modestie. Restons à notre juste place de passager temporaire. N'ambitionnons pas de changer la personne que nous écoutons en quelques phrases. Cette métaphore illustre également le fait que nous choisissons consciemment d'entrer dans la voiture et d'y rester un moment. C'est un acte réfléchi et décidé que nous devons assumer. Nous nous mettons consciemment à l'écoute. Nous nous concentrons pour adopter une attitude d'ouverture, d'intérêt et de respect. Si nous ne sommes pas disponibles, nous pouvons décliner l'invitation ou la remettre à plus tard, lorsque nous serons à même de consacrer du temps et de l'attention à la personne. C'est peut-être un peu frustrant pour elle, mais nous lui offrons en compensation un moment privilégié où nous serons tout ouïe. J'entends que tu as des choses à dire et je voudrais t'écouter, mais là maintenant je suis à la bourre. Est-ce que cela te va si je repasse après le dîner? On aura alors tout le temps de discuter. Je serai disponible pour toi. La personne sait que nous allons revenir et nous disons quand. Notre discussion n'est pas renvoyée au calende grec. Elle peut attendre un peu. Cette mise au point peut être nécessaire avec les personnes qui nous téléphonent à l'improviste ou s'invitent sans crier gare dans notre bureau et parfois à de fort mauvais moments. Une fois dans la voiture, sur notre siège d'écoutant, que pouvons-nous faire et que devons-nous éviter ? Le frein. Le passager ne freine pas à la place du conducteur. En tant qu'écoutant, veillons à éviter toute attitude, toute expression verbale ou non verbale, qui a pour effet de ralentir ou d'arrêter l'expression libre de notre interlocuteur. Attitude verbale qui freine. Mais qu'est-ce que tu dis là? Tu exagères. Mais non, voyons, tu as l'air au contraire d'aller beaucoup mieux. Il n'y a pas de raison que tu sois triste comme ça. Mais non, ma chérie, tu te trompes. Ou encore, un père à son enfant adolescent qui lui exprime sa difficulté de vivre. Tiens, prends ces 20 € et va t'acheter quelque chose qui te plaît. Sous-entendu, arrête de te plaindre, je ne peux rien y faire et je déteste me sentir impuissant. Ah oui, ça je comprends. Moi aussi, quand Gérard m'a quitté, j'ai choisi de... Et moi, et moi, et moi. Ma tante aussi a eu cette maladie. Et tu sais ce qu'elle a fait? Non, et je m'en fiche. J'avais juste envie de te parler. Et je ne connais pas ta tante. Attitude non-verbale qui freine. Écoutez avec une main déjà sur la poignée de la porte ou avec un air distrait. Regardez l'heure. Faire autre chose en même temps. Manifester qu'on brûle d'intervenir. Afficher un petit sourire en coin ou toute autre émotion semi-exprimée qui suscite la curiosité ou l'embarras. Comme expliqué plus haut, ne pas avoir l'intention de freiner n'est pas suffisant. Il faut observer le résultat de nos attitudes, bien intentionnées ou non, et voir si elles n'ont pas pour effet d'empêcher notre interlocuteur de s'exprimer librement jusqu'au bout de ce qu'il a à dire. Observons par exemple combien il est facile d'obtenir l'effet d'un coup de frein avec une question fréquemment posée à une personne que l'on souhaite apparemment aider. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? La réponse la plus habituelle est « rien ». Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une question fermée et même à double tour. Elle comporte en effet deux verrous. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je implique ici que nous nous proposons nous-mêmes pour lui apporter de l'aide. Et faire signifie qu'il s'agit de nous trouver une action, quelque chose que nous puissions faire. Nous trouver quelque chose à faire représente un effort pour la personne qui est préoccupée, affligée ou en souffrance. Cela l'oblige à se centrer sur nous, alors qu'elle a besoin que ce soit nous qui nous centrions sur elle. Elle a besoin de s'exprimer et non de trouver un moyen qui nous aiderait à nous sentir utile. Nous observons de surcroît que cette question amène presque toujours la réponse « rien ». Alors pourquoi continuons-nous à la poser? À chacun de s'interroger sur sa propension à utiliser des voies sans issue. Mais si nous persistons dans notre intention sincère d'aider la personne à se sentir mieux, nous pouvons choisir une formulation qui ne nous campe pas en sauveur, mais qui, au contraire, situe la recherche de son bien-être au centre. Qu'est-ce qui pourrait te faire du bien? Nous observerons alors un éventail de réponses englobant notamment des issues qui concernent quelqu'un d'autre que nous-mêmes. Si seulement ce médecin pouvait m'expliquer ce que j'ai. Je voudrais que Cécile cesse d'insister chaque fois que je n'ai pas les mêmes envies qu'elle. J'ai vraiment besoin que mes enfants me laissent tranquille. J'ai besoin de repos. J'ai assez donné. Et nous pourrions explorer avec elle pourquoi cela ne se passe pas et éventuellement comment y remédier. Des issues qui ne nécessitent pas notre présence. J'ai juste envie de parler, sans plus. J'ai besoin de recul pour mieux comprendre ce qui m'arrive. Je crois que partir quelques jours en vacances me ferait le plus grand bien. Ou encore, des souhaits obsédants que nous savons irréalisables, mais en parler un peu soulage tellement. J'aimerais tant que mon mari soit encore là. C'est si lourd d'être seule face à tout ça. Je voudrais avoir 20 ans de moins. Je voudrais revenir 5 jours en arrière et effacer ce que j'ai dit. Nous observons la richesse d'une question ouverte qui permet une multitude de réponses sans que nous n'en ayons, a priori, la moindre idée, alors qu'une question fermée oriente la réponse vers notre propre préoccupation. L'accélérateur. Revenons dans l'habitacle de la petite voiture. Comme le passager s'abstient de mettre le pied sur l'accélérateur, nous devons éviter les interventions, verbales ou non verbales, qui ont pour effet d'amener celui qui s'exprime plus loin que ce qu'il souhaite dire spontanément. Cette règle implique un respect du rythme de l'individu qu'on écoute, ainsi que de ses silences. Certaines personnes ont besoin de petits moments de pause après avoir exprimé quelques idées. Le fait d'avoir pu mettre leurs préoccupations en mots leur permet d'y réfléchir un peu et de poursuivre à leur aise le développement de leurs pensées. Ces instants de silence les aident à se confier sans risque d'être interrompus. Sans les mots, cela demeure un accompagnement respectueux. Notre attention est soutenue par notre regard et par la qualité de présence que nous manifestons non-verbalement, avec un regard qui ne prend pas, mais qui reçoit dans le silence le plus absolu de l'esprit, comme l'écrit si joliment Alessandro Baricco. Portons également notre attention sur les questions que nous posons pour éviter toute intrusion, toute curiosité non respectueuse. Notre rôle n'est pas de faire parler la personne, ni de lui tirer les vers du nez, mais juste de l'encourager à poursuivre sur sa voie. « Mais vas-y, dis-moi, qu'est-ce que tu as sur le cœur ?»« Non, ça va, laisse-moi. »« Je n'aime pas quand tu me caches des choses. Pourquoi tu ne veux pas me le dire ?»« J'en parlerai plus tard. Lâche-moi. » Là, on observe une certaine insistance. L'écoutant n'aime visiblement pas que son interlocuteur ne soit pas prêt à tout raconter. Il lui paraît désagréable de poursuivre la conversation dans ces circonstances. Mais il pourrait s'y prendre avec plus de respect, sans pour autant nier sa propre difficulté à écouter quelqu'un qui ne parle pas volontiers. « Tu préfères ne pas en parler pour le moment ?»«
Oui.
Non, je ne sais pas. » »«
C'est comme tu veux. »
« Mais si je ne comprends pas ce qui t'arrive, je ne peux pas t'aider. » L'écoutant clarifie sa position tout en respectant le silence de l'autre, qui a le choix de se taire. « Merci, mais je n'ai pas vraiment besoin d'aide pour le moment. Je dois juste prendre un peu de temps pour y voir plus clair moi-même. » Ou de s'exprimer plus avant. « Oui, tu as raison, et j'ai bien besoin de ton avis. Un regard extérieur m'aidera à y voir plus clair. » Il n'est pas simple de trouver cette présence juste qui ne ralentit ni n'accélère. Il faut s'imprégner d'une forme d'affection respectueuse, accompagner l'individu exactement comme il est. À l'égard de certaines personnes, il conviendra de faire montre d'indulgence pour accepter leur confusion, un rythme de parole qui leur est propre, des zigzags ou des précautions oratoires, sans s'énerver. Personne n'est parfait, et a fortiori lorsqu'on ne se sent pas très bien. Le volant. Le passager n'est pas censé prendre le volant. L'écoutant veille lui aussi à éviter toute attitude, verbale ou non verbale, qui a pour effet de faire dévier celui qui s'exprime du cheminement naturel de son expression. Ici s'inscrivent toutes les suggestions, conseils, questions, bonnes idées et autres dérapages qui nous sont familiers. Et pourquoi tu ne lui en parlerais pas? Dites-leur qu'à partir de demain, ils ne peuvent plus rester. Tu devrais vraiment te trouver un autre travail. Tu n'as qu'à laisser tomber maintenant. Vous devriez peut-être aller voir quelqu'un. Ces remarques envoient la personne sur des pistes qu'elle n'avait pas choisi d'explorer. C'est l'écoutant qui imprime la direction. Un peu comme un passager qui dirait sans cesse « Et pourquoi tu n'irais pas par là? Est-ce que tu as déjà essayé cette route-là? Tu pourrais prendre ce raccourci. » Tous les conducteurs ont déjà connu cette situation assez crispante qui leur fait dire parfois « Dis, c'est moi qui conduis. » Pour l'écoute, c'est pareil. Si nous sommes attentifs aux effets de nos interventions déviantes, nous observons des réponses négatives. Mais non, ce n'est pas possible parce que j'y ai déjà pensé, mais... Des réactions évasives, sans aucune conviction. Oui, tu crois? Je ne sais pas. Mais rarement bien positives, comme « Mais quelle bonne idée, je n'y avais pas pensé. Heureusement que tu m'en parles. » Il peut nous arriver d'avoir de bonnes idées pour autrui, bien entendu. Mais il est préférable que la personne en difficulté y arrive d'elle-même, afin que ses éventuelles solutions collent au plus près à ses besoins et à ses capacités, mais aussi parce que le fait d'en avoir eu l'idée elle-même lui rendra peut-être un peu de confiance et de courage. À nous de l'y aider avec subtilité. À quoi as-tu déjà pensé? Quelles sont les solutions qui s'offrent à toi? Qu'est-ce que tu en penses? Nous pouvons l'aider avec ce genre de questions, mais seulement quand elle nous donne des signes témoignant du fait qu'elle essaye de se dégager de l'ornière. Sinon, cela aurait l'effet d'un coup d'accélérateur ou de frein. Le frein, l'accélérateur et le volant représentent les attitudes à éviter. Venons-en maintenant aux attitudes à développer. Les phares. Dans cette petite voiture, l'écoutant a accès aux phares. Pas les pleins phares qui prévoient où la voiture va aller, mais les petits phares qui éclairent quelques mètres devant, sans plus, et qui accompagnent tous ses mouvements. Trois interprétations se dégagent de cette image. Les phares accueillent, éclairent et lisent. Les phares accueillent. La lumière des phares précède la voiture, lui ouvre la route. Elle illustre toutes les attitudes d'accueil. Verbal. Je t'écoute. Viens, installons-nous ici, nous ne serons pas dérangés et je pourrai t'écouter à l'aise. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Raconte. Et non verbal. Arrêter ses activités. Se taire. S'asseoir. Montrer son attention. Soutenir le discours par des mimiques ou un regard qui encourage la parole. Les phares éclairent. Les phares aident le conducteur à voir où il va et lui permettent de faire le point sur sa route. Ils illustrent toutes les interventions qui expriment avec nos mots ce que nous percevons, ce que nous croyons comprendre, de ce que vit celui qui parle. Nous essayons d'éclairer, de clarifier. Si nous croyons avoir compris, nous pouvons reformuler ou synthétiser de façon affirmative. Donc, en fait, ce qui est le plus pénible pour toi, c'est qu'elle t'ait humilié devant vos amis. En vous écoutant, je me rends compte que le plus dur, c'est qu'il ne vous ait rien expliqué. Tu es fâché contre lui, c'est clair, tu ne peux plus le supporter. Si nous sommes moins sûrs, nous utiliserons une forme hypothétique. Ce que tu veux dire, c'est que ces tensions te minent, c'est ça? En fait, il me semble, en t'écoutant, que tu te sens culpabilisé, non? Tu veux dire que tu n'as plus envie de travailler avec ce type-là, n'est-ce pas? Si nous ne comprenons vraiment pas, nous tâcherons de synthétiser de manière interrogative. Mais qu'est-ce qui est prioritaire pour toi dans tout ça? Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Tu as l'impression d'avoir été floué? Les phares lisent. Ces phares sont comme de gros yeux. Ils ont également pour fonction de lire ce qu'exprime la personne de façon non-verbale, avec les mêmes nuances que précédemment, affirmative, hypothétique et interrogative. Cela n'a pas l'air d'aller très fort ce matin. Qu'est-ce qui se passe? Tu me parais bien préoccupé. Je te sens un peu triste quand tu dis ça. Je vois que c'est encore très douloureux. Qu'est-ce qui t'émeut comme ça? C'est quoi ce petit sourire en coin? En nous adressant à elle de la sorte, nous invitons la personne à s'exprimer, mais ne la forçons en rien. Elle peut très bien nous répondre évasivement et nous respecterons sa réserve. Dans la voiture. Pour terminer l'exploitation de cette image, nous sommes assis dans la voiture. Nous ne sommes pas spectateurs extérieurs, peu atteints par ce que vit le conducteur. Assis à côté de lui, nous sentons les chaos, les chocs et les dérapages. Nous ne sommes pas indifférents à ce qu'il ressent. Ce qu'il vit nous touche, nous émeut, nous bouleverse éventuellement. Nous pouvons parler de ce que nous ressentons en écho à ce qu'il exprime. C'est ici que nous pouvons dire « je ». Nous pouvons dire ce que cela nous fait de percevoir sa souffrance, d'en être témoin d'avoir reçu sa confiance en même temps que sa confidence. Ce sont ces mots-là qui le rendent vivant, qui le font exister en tant que personne. C'est vraiment là qu'il se sent reconnu et en lien avec nous. Être reconnu dans sa souffrance et exister aux yeux de l'autre sont les besoins essentiels de toute personne en difficulté. Je suis vraiment touchée par ce que tu vis. Cela m'a l'air plus dur que ce que j'imaginais. Je me sens très préoccupée par ce qui t'arrive et en même temps assez impuissant. Je me rends bien compte de la situation dans laquelle tu te trouves. Oui, je vois. C'est dur, ça. Je te remercie de la confiance que tu m'accordes en me racontant tout cela. Ça me va droit au cœur. Nous pouvons évidemment manifester notre émotion non verbalement, par l'expression de notre visage et nos gestes. Et parfois même par une expression émotionnelle qui nous serre la gorge et que nous choisissons de laisser monter. Partager la souffrance de l'autre en montrant nos larmes nous relie fortement à lui. Mais nous devons rester vigilants et garder quelque peu notre émotion sous contrôle. C'est son histoire, pas la nôtre. Et notre ressenti ne doit évidemment pas prendre le pas sur le sien. Libre, mais conscient. Chacun reste bien entendu libre d'écouter comme il l'entend. Personne ne devrait nous dire en cette matière ce qui est bon ou non. Mais si nous voulons rester honnêtes à nos propres yeux, il importe de ne pas porter une casquette en pensant en porter une autre. La casquette « écoute respectueuse » n'est pas impunément interchangeable avec celle des conseils bien intentionnés, des interventions éducatives, des avis personnels, des généralités sur la question, des interventions minimisantes ou des passages à l'action. Ces autres casquettes, nous pouvons nous les poser sur le chef quand bon nous semble, du moment que nous restons conscients de notre choix d'intervention et de ses conséquences sur la relation. Roue de secours. L'écoute silencieuse. Si le dialogue est difficile, si nous avons tendance à nous interrompre trop souvent, si nous nous crispons mutuellement, si notre partenaire a l'impression de ne pas arriver au bout de ses pensées parce que même avec de bonnes intentions, il y a trop de coups de volant ou de freins, il existe encore une manière d'écouter assez curieuse, mais étonnamment efficace. L'écoute totalement silencieuse. La règle consiste à nous taire complètement lorsque l'autre parle, à ne pas réagir, à ne pas lui poser la moindre question, ni aujourd'hui, ni plus tard. Le temps dévolu à l'expression est long. Il peut durer quelques heures, une soirée par exemple. Le duo, couple ou parent-enfant par exemple, convient d'un lieu et d'un moment et de celui qui va s'exprimer. Cette fois-ci, il aura toute la place et l'autre ne parlera pas. Une autre fois, ce sera l'inverse, éventuellement. L'intérêt de ce pacte de silence est qu'il calme toute velléité d'intervenir. Si nous écoutons silencieusement, nous apaisons le flot de pensées continues destinées à riposter, poser des questions, nier ce qui est dit, redresser une version des faits qui nous déplaît, etc. Nous n'avons rien à dire, donc nous écoutons profondément et calmement. Comme il n'est pas prévu que nous puissions répondre directement, ni plus tard, nous laissons décanter. Les idées percolent doucement. Les paroles qui comptent vraiment émergent et l'inutile s'estompe. Les questions qui se posaient trouvent parfois une réponse qui fleurit d'elle-même, sans que nous ayons eu à forcer. La garantie que l'écoutant n'interviendra pas crée un cadre de parole très sécurisant. Tenu par la règle, nous écoutons comme jamais nous ne le faisons dans la vie courante, et petit à petit, nous entrons dans l'univers de l'autre. Nous découvrons des raisonnements que nous n'imaginions pas, et nous commençons à en comprendre toute la subtilité. C'est vraiment une expérience surprenante. Vous êtes maintenant, je l'espère, apte à bien écouter. Mais arrivez-vous à bien vous exprimer ? Chapitre 3. S'exprimer. Chercher la composition, c'est s'approcher du vrai. S'exprimer, c'est se rapprocher du beau. Et il faut encore se souvenir que ces deux opérations se font ensemble, car le beau est un moyen d'approcher le vrai, comme le vrai s'irradie naturellement dans le beau. Jean Guiton. S'exprimer est un besoin vital. Individus sociaux, nous avons besoin